Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Bonjour à tous, midi 30, ravie de vous retrouver pour le journal de la mi-journée.
Nous n'avons pas encore de victoire pour l'instant, mais les chiffres sont clairs, nous allons gagner cette course.
Joe Biden demande encore au moins 24 heures, même s'il fait la course en tête dans plusieurs états clés, comme en Pennsylvanie. Joe Biden, pas encore président, mais qui en prend la stature en se posant en rassembleur cette nuit des Américains. Nous serons à Washington pour faire le point sur le décompte des voix. Et nous verrons avec nos invités la spécialiste des États-Unis Nicole Bacharan et l'ancienne conseillère de Bill Clinton Léa Pizard depuis New York comment Joe Biden peut réconcilier ces deux Amériques. En France, l'émotion à Nice pour l'hommage national aux victimes de l'attentat de la Basilique ce matin. Nice qui a payé un lourd tribut, dit Jean Castex. L'épidémie de coronavirus et nouveau record de contamination hier, au moins 60 000 cas. Nous serons en ligne avec le professeur Constantin, chef du service de réanimation de la Pitié-Salpêtrière, alors que de nombreux hôpitaux sont saturés. La météo avec deux départements en vigilance orange, le Gard et l'Hérault, nous dira Valérie Darmon. Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Et nous serons aux États-Unis où notre correspondant Xavier Yvon nous expliquera comment il suit ce dépouillement heure par heure et qui devrait proclamer le nom du futur président.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et pour commencer ce journal, direction Nice. Nice qui a payé un lourd tribut. Voilà pour les mots de Jean Castex ce matin qui présidait l'hommage national aux trois victimes de l'attentat de la Basilique. Hommage auquel vous avez assisté pour Europe 1, Frédéric Michel.
Effectivement, un hommage sobre et très poignant dans un écrin de verdure avec en arrière-plan le bleu de la Méditerranée. Et l'un des instants particulièrement émouvants de cette cérémonie a été l'entrée sur cette esplanade de la colline du château des portraits de Nadine, Simone, Vincent, portraits tenus par leurs proches et familles entourés de la garde républicaine. L'indifférence de Gilbert Bécaud a retenti. C'était la chanson préférée de Nadine de Villers, 60 ans.
Ce qui détruit le monde, c'est l'indifférence.
Puis un poème de Victor Hugo a été déclamé. Hommage à Vincent Loquès, 54 ans, le sacristain, père de deux filles.
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai.
Avant que résonne un air de Gilberto Gil pour se rappeler de Simone Barreto Silva, 44 ans, maman de trois enfants. Cette franco-brésilienne venait prier tous les matins à Notre-Dame de l'Assomption. Le maire de Nice et le Premier ministre ont ensuite pris la parole, Jean Castex désignant les ennemis de la démocratie.
Le terrorisme s'en prend à ce que nous sommes, à notre liberté, à notre culture, à nos vies. L'ennemi, nous le connaissons, c'est l'islamisme radical.
La cérémonie s'est achevée par une minute de silence, suivie d'une Marseillaise et de trois coups de canon en hommage aux trois victimes, avant que résonne sur cette colline du château la célèbre chanson de Louis Armstrong. Quel monde merveilleux.
Frédéric Michel à Nice pour Europe 1 pour cet hommage national aux trois victimes de l'attentat de la Basilique.
Fabienne Lemoyle vous informe sur Europe 1.
Et toujours pas de fumée blanche aux États-Unis. Il faudra donc attendre encore au moins 24 heures. Message de Joe Biden cette nuit depuis son fief du Delaware, même si dans son discours, le candidat démocrate prend de plus en plus les habits présidentiels.
Nous n'avons pas encore l'annonce de la victoire, mais les chiffres sont clairs. Nous allons gagner cette course. Nous avons récolté plus de 74 millions de votes. C'est plus que n'importe quel président dans l'histoire des États-Unis. Et le décompte n'est pas fini. Nous sommes au-dessus de Donald Trump de 4 millions de votes, une marge qui ne fait que progresser.
Voilà, le décompte continue. Seule réaction Donald Trump cette nuit, et c'était avant que Joe Biden ne prenne la parole, c'était dans un tweet pour dire que Biden ne devrait pas revendiquer la présidence de manière illégitime et que les procédures judiciaires ne faisaient que commencer. Nous retrouvons à Washington l'un de nos envoyés spéciaux, Mathieu Bock, bonjour.
Bonjour Fabienne.
Alors question très simple Mathieu, puisque tout le monde a les yeux rivés sur ces cartes des États clés, on en est où de ce dépouillement et de ce décompte ?
Eh bien, tout le monde attend fébrilement, en fait, les résultats en provenance de la Pennsylvanie. Au dernier pointage, Joe Biden y avait très précisément 28 833 voix d'avance et cela augmente en permanence. Alors, ça peut paraître beaucoup comme avance, mais en fait, c'est moins de 0,5% du total des voix. Et en Pennsylvanie, la règle est très claire. S'il y a moins de 0,5% d'écart entre les deux candidats, eh bien, on recompte tout, c'est automatique. Alors, actuellement, Joe Biden tourne autour de ces 0,5%, mais avec 4% encore des bulletins à dépouiller et un Trump en phase prêt à contester à n'importe quel moment, il préfère ne pas prendre de risques. Il attend donc de dépasser complètement ce cap pour ne pas avoir à subir de recomptage. Et si la Pennsylvanie bascule dans l'escarcelle de Biden, eh bien c'est fini, il a gagné, car cet État rapporte en effet 20 grands électeurs et il ne lui en faut plus que 17 pour passer la barre fatidique des 270 pour être élu. Donc de manière très, très pragmatique, en fait, ce qu'on attend maintenant, c'est que l'une des grandes chaînes de télé annonce que d'après son propre décompte, Joe Biden a gagné, et l'une des plus puissantes, CNN, promet qu'on aura les résultats avant la fin de la journée.
Bonjour Nicole Bacharan.
Bonjour Fabienne.
Politologue spécialiste des États-Unis, on va revenir dans un instant avec vous sur le fond du discours de Joe Biden qui veut rassembler, a-t-il dit cette nuit, l'Amérique. Mais déjà, on a l'impression, et on l'entendait avec Mathieu Bock, que c'est un dépouillement sans fin, même si CNN annonce effectivement des résultats, et surtout que personne n'ose se risquer à proclamer le vainqueur.
Exactement, c'est tellement serré et les médias ont été tellement échaudés puisque, vous le rappeliez, ce sont les médias qui prennent l'initiative d'annoncer le vainqueur. Souvenez-vous de l'élection de 2000 où dans la même nuit, les médias ont annoncé la victoire d'Al Gore, puis la victoire de George Bush, puis « Too close to call ». Pour finalement avoir 5 semaines de recomptage jusqu'au résultat final. Donc, entre les procédures judiciaires qui existent dans à peu près une demi-douzaine d'États pour ralentir le résultat, évidemment, c'est ce que vise l'équipe Trump, entre les possibilités de recomptage automatique, entre le décalage horaire qui fait que les résultats dans le Nevada et l'Arizona, qui pourraient aussi être cruciaux, risquent d'arriver tard, on aurait les résultats, j'ai envie de dire, entre ce soir et quelques jours de plus, voire davantage.
Voilà, sage précaution Nicole Bacharan, vous restez avec moi, vous le disiez, et on le disait, un des états clés pour désigner le président, c'est la Pennsylvanie, état où est né Joe Biden, et qui pourrait lui donner la victoire avec ses 20 grands électeurs. Théo Manval, vous êtes à Philadelphie pour Europe 1, et là aussi le dépouillement se poursuit avec l'espoir d'une annonce dans les heures qui viennent.
Eh oui, ce n'est qu'une question d'heures. Le dépouillement s'est arrêté ici pour la nuit. Mais avant ça, l'avance de Joe Biden a augmenté ici à chaque nouvelle cargaison de bulletins venus des grandes villes. 28 000 voix, ça lui fait désormais 0,43% d'avance sur Donald Trump. Pourquoi je vous donne un chiffre aussi précis ? Eh bien parce que si on franchit le seuil des 0,5%, on en est très proche, Joe Biden pourra être déclaré vainqueur par les télés américaines. Alors Donald Trump, lui, crie haut et fort qu'il a obtenu, en attendant une victoire en justice hier soir, un juge a ordonné que les bulletins arrivés par courrier après le jour de l'élection en Pennsylvanie soient stockés à l'écart des autres. Mais tant que le cachet de la poste montre qu'ils ont bien été envoyés le 3 novembre, ils restent comptabilisés, c'est la règle ici. Et ça, les soutiens du président espèrent encore le voir changer.
Ça ira jusque devant la Cour suprême. Et quand ces recomptes auront lieu, j'espère qu'ils seront faits correctement. Parce que c'est pas possible que tous ces bulletins par courrier soient pour Biden. Même dans les villes les plus à gauche, c'est très peu probable. Ce n'est pas normal.
Alors cette fin de comptage se déroule en tout cas dans une atmosphère toujours particulière à Philadelphie. Les abords du centre de dépouillement ont encore été évacués cette nuit après une alerte à la bombe. Il y a 2 jours, vous vous en souvenez sûrement, 2 hommes armés de fusils avaient déjà été arrêtés près du bâtiment, soupçonnés d'avoir voulu l'attaquer.
Merci beaucoup Théo Manval. Alors on vient d'entendre ces électeurs trumpistes pas prêts à accepter cette victoire de Joe Biden. Joe Biden qui en quelque sorte s'est adressé à eux cette nuit.
Nous devons dépasser la colère et la diabolisation. Il est temps pour nous de réconcilier cette nation et ma responsabilité en tant que président sera de représenter l'ensemble de la nation.
Voilà, Nicole Bacharan, on vient d'entendre ces mots de Joe Biden, rassembler la nation. C'est ça son plus lourd défi quand on sait qu'il n'y a jamais eu autant d'Américains à voter pour une élection. 74 millions pour lui actuellement, mais au moins 70 millions d'électeurs pour Trump. Est-ce que j'ai envie de dire Joe Biden à la Trump pour relever ce défi alors qu'on peut le dire, il n'a pas forcément le charisme d'un Barack Obama.
Mais c'est vrai et bizarrement, je pense que ça peut être un atout. parce que finalement, Barack Obama, qui était un candidat magnifique, avec un charisme indéniable, il suscitait dans le camp républicain énormément d'hostilité. Il faut le dire qu'il y avait une part de racisme, il ne faut pas négliger cela. Il y avait aussi son côté intellectuel de la côte Est, diplômé d'Harvard, qui représente, pour le meilleur ou pour le pire, les élites. Eh bien, ce n'est pas le cas de Joe Biden. Joe Biden est un homme qui n'est pas flamboyant, mais qui est solide, qui n'est pas charismatique, mais à qui on peut faire confiance, qui peut s'adresser à la classe ouvrière, qui peut s'adresser aux croyants, puisque lui, il n'a aucun complexe avec sa foi catholique, qui connaît le Sénat par cœur, il connaît tous les sénateurs depuis plus de 30 ans, donc qui peut parler à l'autre camp. Je ne dirais pas que réconcilier l'Amérique sera une tâche facile, elle est peut-être même impossible, mais en tout cas, ce candidat un peu fatigué, un peu usé, mais que personne ne déteste, au fond, il a peut-être une meilleure chance qu'un Barack Obama magnifique, mais détesté par une partie du pays.
Merci beaucoup, Nicole Bacharan, de nous avoir accompagnés pour nous éclairer, justement, entre autres, sur la personnalité de Joe Biden. On a bien compris que maintenant, la balle est en quelque sorte dans le camp des médias pour déclarer qui sera ce président. Et on reviendra sur ce feuilleton de la présidentielle américaine, dont on attend toujours le dénouement, avec notre invité en direct de New York, où le jour se lève à peine, Léa Pizarre, ancienne conseillère de Bill Clinton, qui sera avec nous dans une dizaine de minutes.
Europe Midi. Fabienne Lemoelle.
60 000 nouvelles contaminations, nouveau record hier de cas de coronavirus en France. Et cela pourrait même être plus puisque Santé publique France parle de bugs informatiques à cause des très nombreux tests pratiqués en ce moment. Un record qui touche aussi la région Auvergne-Rhône-Alpes avec des transferts de malades hier. Jean-Luc Boujon.
Sur le tarmac de l'aéroport de Lyon-Bron, deux patients en brancard que l'on embarque avec 1000 précautions dans un petit jet. La scène est devenue banale ici en Auvergne-Rhône-Alpes. 61 transferts ont été réalisés en 15 jours, dont 10 pour la seule journée d'hier des malades de Lyon, Bourg-en-Bresse et Chambéry, acheminés vers les hôpitaux de Poitiers, Saint-Brieuc ou Strasbourg. Une organisation très conséquente, explique Marie Lassaigne, référent des urgences à l'Agence régionale de santé.
Ça mobilise un minima pour remplir un avion au moins 3 professionnels de santé, 2 médecins et un infirmier. L'idée d'avoir un patient qui soit relativement stable pour supporter le transfert. Ce sont des patients qui sont sous assistance ventilatoire, des patients intubés. Donc effectivement, ce sont des patients qui ont déjà passé quelques jours en réanimation.
Des transferts qui sont une nécessité, selon le docteur Jean-Yves Gral, directeur de l'Agence régionale de santé.
Nous avons besoin tous les jours de 30 à 40 places supplémentaires dans les réanimations de la région. Très vite, en 2 jours, on pourrait être saturé si nous n'avions pas cette dynamique d'anticipation en transférant des patients de réanimation, bien sûr, dans d'autres régions et dans d'autres réanimations.
Des transferts qui vont s'interrompre ce week-end, mais qui reprendront dès lundi avec 12 nouveaux patients qui seront acheminés vers la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Bonjour, professeur Jean-Michel Constantin.
Bonjour Fabienne Lemoelle.
Merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Europe 1. On vient d'entendre cette situation dans la région Rhône-Alpes. Je rappelle que vous êtes chef du service de réanimation à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ce record de contamination enregistré hier, ça se traduit comment dans vos services ?
Le record n'est pas quelque chose d'exceptionnel, vous savez, c'est la tendance, ça monte en permanence. Souvenez-vous, il y a 3 semaines, quand on a passé les 20 000 cas, les épidémiologistes ont dit on n'est pas sûr que ce soit vrai, il va falloir recompter, comme les Américains. Vous voyez, on est passé à 50, on est autour de 60. Il y a une contamination qui n'arrête pas. Le couvre-feu n'avait pas réussi à la casser. On peut espérer qu'on voit d'ici la semaine prochaine les bénéfices du confinement. C'est la seule chance qu'on ait. Nous, on est sous tension, mais on a encore de la place sur Paris. Nos collègues lyonnais et stéphanois ont passé ce niveau-là depuis une semaine, une dizaine de jours. Et effectivement, ils survivent à coup de, si je peux me permettre l'expression, à coup de transfert, comme on l'avait fait entre mars et avril. Heureusement, il reste encore quelques régions un tout petit peu épargnées, ce qui permet
de faire des transferts.
Mais il n'y a plus beaucoup de possibilités.
Alors justement, professeur Jean-Michel Constantin, le Premier ministre Jean Castex dit ce matin que plus que jamais, il faut que les Français respectent le confinement de la manière la plus stricte possible. Ça suffit pour vous de dire cela au vu de ce que vous vivez ? Et est-ce qu'on se relâche trop, nous, Français ?
Je n'ai pas l'impression, sincèrement. Ça se passe plutôt bien. Et on a l'impression, les épidémiologistes ont l'impression qu'on va arriver au plateau vers le 20 novembre parce que justement, les mesures qu'on a prises, le couvre-feu puis le confinement commencent à payer leurs fruits. Donc on est vraiment là-dedans. Il faut que tout le monde respecte, il faut que tout le monde fasse cet effort. Parce que c'est probablement la seule garantie qu'on ait, un, de ne pas être noyé sous le nombre de patients, deux, de pouvoir tous se déconfiner avant des mois et des mois.
Donc je vous entends bien, pour avoir eu à ce micro beaucoup de personnel du secteur, encore Aurélien Rousseau, il y a deux semaines, le directeur de l'Agence régionale de santé. Vous semblez plutôt optimiste, j'ai envie de dire, sur les mesures prises actuellement, justement, pour freiner ces contaminations.
On a l'impression que ça marche plutôt bien. Alors c'est moins spectaculaire que le confinement du mois de mars, parce qu'on voit quand même des personnes circuler. Mais ce qui semblait difficile à comprendre, on a eu plein de reproches en disant « Mais pourquoi est-ce qu'on nous bloque à 21h ? Le virus, il ne circule pas spécialement à partir de 21h ?» Non, mais on sait que c'était toutes ces zones un peu à risque, tous ces échanges sociaux, ce qui fait notre vie, hein, ce qui fait qu'on a envie de vivre, qui faisait circuler le virus. Là, on a l'impression que ça circule un peu moins. Une fois de plus, mon impression n'est pas très importante. Les chiffres que nous donnent l'INSERM et Pasteur vont plutôt dans ce sens-là, de dire on a l'impression que ça fonctionne et qu'on pourrait voir un plateau d'ici la fin novembre.
Merci.
Ce qui est bien.
Merci beaucoup, professeur Jean-Michel Constantin, d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1. Je rappelle, chef du service de réanimation à la Pitié-Salpêtrière. On reviendra justement sur ce confinement qui est nettement moins bien accepté quand même dans tout terrain tout à l'heure dans quelques minutes. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce samedi. Deux départements en vigilance orange, Valérie Darmon.
Absolument Fabienne, le Gard et l'Hérault qui sont en alerte orange forte pluie inondation, les pluies qui s'y généralisent en ce moment même et c'est seulement la nuit prochaine que les précipitations cesseront progressivement sur l'Hérault et au lever du jour sur les Cévennes. Il devrait tomber l'équivalent de près de 15 jours de pluie pour un mois de novembre sur ces régions d'ici demain. Ce mauvais temps est même en train de remonter jusqu'en Bretagne par la façade ouest. Nuages et pluies s'essoufflent tout de même en remontant vers le nord-ouest. Les nuages sont nombreux mais les pluies plus faibles. Et puis de Lille à Nice, en passant par l'arc de la façade est jusque sur Paris, Bourgogne, Vallée du Rhône. Là, le soleil brille. Les maximales sont toujours très douces pour la saison, jusqu'à 5 degrés au-dessus des moyennes. Cet après-midi, il fera 11 à 15 sur le nord et dans l'est de la France, 15 à 20 sur les autres régions et jusqu'à 21 sur l'extrême sud-est.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Fabienne Lemoyle.
On attendait une adresse à la nation, un premier discours présidentiel de Joe Biden cette nuit, mais il faudra encore attendre au moins 24 heures, a-t-il dit le candidat démocrate, même s'il prend de plus en plus une posture de futur président. Bonjour Léa Pizard.
Bonjour.
Merci infiniment d'être en direct avec nous depuis New York où le jour se lève à peine car il n'est pas encore 7 heures du matin chez vous et donc les Américains se réveillent une nouvelle fois sans connaître le nom du futur président de leur pays. Est-ce que Léa Pizard, vous qui êtes ancienne conseillère de Bill Clinton et donc observatrice éclairée de cette vie politique américaine, il n'y a pas un risque d'entrer dans une zone de turbulence avec des tensions qui monteraient dans le pays avec cette attente ou comme vous nous le disiez sur Europe 1 cette semaine, finalement, il faut savoir attendre pour jouer le jeu de la démocratie?
Il faut savoir attendre et je dois vous dire qu'au fur et à mesure que j'observe ce qui se passe et que j'écoute les déclarations de Joe Biden, je me dis que cette période n'est pas si mauvaise pour les États-Unis parce que on s'habitue à ce qui se passe. Le peuple américain prend la mesure de la situation et s'habitue à la voix de Joe Biden qui pose ses jalons et devient président alors que Trump est cloîtré dans la Maison Blanche et qu'on ne l'entend pas, ce qui en dit quand même très très long.
Et qu'il a très peu tweeté alors, voilà. Effectivement depuis cette nuit. Hein.
Oui, il est. On l'entend moins. Il se demande probablement ce qu'il peut faire. Mais la démocratie fonctionne, ce qui est rassurant parce qu'on a eu très très peur avant. Les votes sont comptés et nous pensons que la victoire de Joe Biden est inéluctable, mais il faut compter les votes. Et je voudrais ajouter autre chose. Tout le monde dit c'est serré. D'abord, on n'a pas encore tout compté. En 2016. Hillary Clinton a obtenu 3 millions de voix de plus que Donald Trump. Le système ne fonctionne pas ainsi. Trump a gagné. Mais si 80 000 voix à travers le pays avaient été redistribuées dans d'autres États, Madame Clinton aurait été présidente. Donc oui, c'est serré, mais c'est aussi dans la nature de ce processus un peu curieux et alambiqué.
Alors, Joe Biden, Léa Pizarre, s'est posé en rassembleur cette nuit. Ça va être ça, son principal défi, qui est immense, parce que ce qu'on a vu aussi à travers le vote, vous parlez justement de ces voix, c'est que jamais autant d'Américains n'ont voté pour une élection. Donc c'est pour le cas pour Joe Biden, mais c'est aussi le cas pour Donald Trump, qui lui aussi va recueillir un nombre record de voix. Comment réconcilier ces deux Amériques ?
Écoutez, je pense que Joe Biden est vraiment l'homme de la situation. C'est un rassembleur, c'est quelqu'un qui sait consoler. Si vous me permettez une perspective un peu personnelle, j'ai perdu mon mari il y a quelques années. Il souffrait d'un cancer au même moment que le fils de M. Biden. Et quand Biden a appris que mon mari était malade, il m'appelait régulièrement pour voir comment ça allait, pour me consoler, pour m'encourager. C'est quelqu'un, je vous raconte ça parce que c'est quelqu'un qui est d'une compassion très, très, très profonde. C'est qui il est. Il a surmonté les pires horreurs dans sa vie. Vous savez, il a perdu sa femme et ses enfants quand il était très, très jeune. Il a surmonté cela. Il a perdu récemment son fils adoré. Il s'est dépassé un moment de grande peine et de grande souffrance et passer outre, et l'Amérique, je pense, a besoin de sa voix. C'est quelqu'un qui sait apaiser, c'est aussi quelqu'un qui sait gouverner, qui voilà. a une expérience inégalée, et qui, je pense, saura vraiment faire ce qu'il faut pour réparer une Amérique qui en a vraiment besoin et avancer.
On entend réparer une Amérique qui en a vraiment besoin, Léa Pizarre, mais est-ce que le risque aussi, ce n'est pas que Joe Biden, connaissant très bien les arcanes de l'administration, il a été vice-président de Barack Obama pendant des décennies sénateur, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une forme d'attentisme ?
Non, je pense que ce qu'il y a, c'est quelqu'un qui est prêt à prendre le pouvoir tout de suite, à savoir comment fonctionne Washington, à connaître l'exécutif, puisqu'il a été vice-président pendant 8 ans, et le Sénat, le Congrès, où il a été, vous le disiez, pendant très très longtemps. Il s'entend extrêmement bien avec ses anciens collègues républicains du Sénat, donc il est absolument capable de
prendre ses fonctions. Il n'y aura pas de blocage pour vous, même si le Sénat n'est pas acquis aux démocrates, il n'y aura pas de blocage.
Évidemment qu'il y aura des blocages, c'est dans la nature du système. Ne soyons pas naïfs. Mais s'il faut parler aux républicains, négocier avec les républicains, avancer avec les républicains, ce sera probablement la composition du paysage politique. Biden est à même de le faire beaucoup plus que d'autres.
Une dernière question, Léa Pizarre. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Donald Trump? On sait que traditionnellement, chaque président sortant adresse des vœux au président suivant. On n'en est pas encore là, mais est-ce que vous pensez que c'est possible et que ce sera important aussi pour apaiser cette nation?
Ce serait important, on a envie de lui dire, Monsieur Trump, si les résultats sont confirmés, faites une sortie honorable, songez à votre place dans l'histoire, peu probable. Mais là, il est déconfit, ce n'est pas la grande forme à la Maison-Blanche. On a appris que le secrétaire général de la Maison-Blanche est atteint du Covid, donc je pense qu'ils sont un peu désemparés en ce moment, on verra ce qu'ils feront. Si Trump continue à être entouré, mais on a du mal à imaginer une transition calme et élégante.
Merci beaucoup Léa Pizarre. Je rappelle, docteur en sciences politiques, ancienne conseillère de Bill Clinton, d'avoir été en direct avec nous de New York pour nous éclairer sur ce feuilleton dont on attend toujours le dénouement. Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Nous partirons justement aux États-Unis, rejoindre notre correspondant Xavier Yvon et il nous racontera comment il suit ce décompteur par heure.